Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous invite à deux lectures qui va situer notre réflexion. La première, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, verset 1er. On va commencer par là. Alors, Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Un seul verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais relire cette parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On pourrait donner cette définition à ce phénomène extraordinaire, parce que je dis bien qu'il est extraordinaire, don de Dieu par excellence, qu'est la foi. Et nous savons que c'est à travers la foi, nous dit toujours le texte des Hébreux, que seulement par la foi que nous pouvons être agréables à Dieu. Il n'y a pas de moyen autre par lequel nous puissions nous approcher de Dieu et nous puissions être agréés de lui. Et cette affirmation nous montre que c'est une ferme assurance. Et c'est en quelque sorte un superlatif. Il y a déjà l'idée de fermeté sur quelque chose qui témoigne de certitude. Une ferme assurance de choses que nous espérons. Des choses qui sont au fond de notre cœur, bien entendu dans la volonté de Dieu, mais sur lesquelles, notre attente se porte. La ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration, avant même que nous ayons reçu ce que nous avons demandé, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elles vont se réaliser, les choses que nous demandons, les prières, l'exaucement que nous attendons, n'est pas encore exaucé ou exaucement, mais nous avons déjà par notre attitude, une attitude de quiétude, une attitude de paix, une attitude de tranquillité, nous avons donc cette certitude et cette assurance que nous allons le recevoir. Vous savez, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30, il nous est dit ceci, et je le rappelle pour mémoire, qu'il nous est dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est dans le repos et la tranquillité que sera notre salut. Et c'est véritablement la caractéristique de la foi. Quelqu'un qui déclare avoir la foi, c'est quelqu'un devant peut-être des situations difficiles, des vents contraires, peut-être la peine, le chagrin, parvient à avoir cette sérénité intérieure envers et contre tout, parce qu'il sait, comme Jésus le dit dans Marc chapitre 11, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous connaissez la suite, vous le verrez s'accomplir. » Voilà, ça c'est notre petite introduction. J'aimerais maintenant que nous en ayons la démonstration à travers une page de l'Évangile de Jean. Nous allons lire l'histoire d'un homme qui est propre à nous interpeller ce soir et qui va nous donner l'exemple, le modèle en quelque sorte de ce qu'est la foi vivante, la foi dans l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alors on va lire cela. Je vous propose donc cette lecture dans l'Évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 43. Et c'est vrai que c'est un des épisodes qui me plaît beaucoup personnellement, un épisode fameux, on peut peut-être ajouter cela, de cette démonstration et manifestation de la foi avant même d'avoir reçu. Alors écoutez, après ces deux jours, verset 43, après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers tout simplement cette parole et qu'elle puisse, dans le cœur de chacun d'entre nous, susciter, je dirais pas seulement la foi, mais une grande foi en Dieu. Jésus le rappelle, dans ce même évangile, il dira, croyez en Dieu, croyez en moi, et que votre cœur ne se trouble point. Dans cet épisode qui nous est rapporté donc uniquement dans l'évangile de Jean, il nous est simplement montré que dans cette ville importante de Galilée qui se nomme Capernaum, il y avait donc un homme officier du roi, donc un homme qui se distinguait probablement par sa situation, non pas par le fait qu'il était militaire, mais il était certainement à la tête, eh bien là, d'un, je ne sais pas comment on peut appeler cela, un groupe de soldats, hein, une escouade ou autre chose. Et cet homme nous est-il rappelé que il avait un fils qui était malade et dont nous avons vu il y a un instant que c'était quand même un sujet de gravité. Alors, il a appris que Jésus était venu donc de Judée en Galilée, qu'il était remonté donc dans ce nord d'Israël, et devant probablement l'impossibilité humaine de trouver une solution au mal de son fils, eh bien, il s'est décidé à venir vers Jésus en pensant que Jésus avait, lui, certainement la capacité de faire quelque chose dans sa détresse et de répondre à son désarroi. Et nous voyons que s'il a fait cette démarche, c'est qu'il avait appris. Vous savez, la foi, elle ne vient pas n'importe comment. Elle ne s'appuie pas sur n'importe quoi. Elle ne pousse pas dans n'importe quel terreau religieux ou autre, hein, ou philosophique. La foi vient de ce que l'on entend. Et c'est Paul qui le dira d'une manière très catégorique dans l'épître aux Romains, il dira que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qui donne la foi, c'est la parole de Christ, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le fondement. Je le rappelle, parce que c'est important de le dire. Alors, il a appris que Jésus était venu de Judée en Galilée. Ça fait deux informations. Il a appris que Jésus n'était pas très loin, enfin, peut-être à quelques heures de marche de lui, à proximité, disons, que lui, cet homme, était dans la détresse à cause de son enfant mourant, et que parce que Jésus était remonté donc de Judée en Galilée. Et la deuxième chose, c'est qu'il a appris aussi que Jésus avait certainement des capacités que nul autre homme ne disposait pour faire des miracles et des prodiges. Et ça, ça fait deux choses importantes. D'abord, la proximité, Jésus ayant, eh bien là, remonté en Galilée, donc en Galilée, la proximité, Jésus est proche. Et puis, cette capacité, eh bien, d'opérer des choses extraordinaire, on pourrait peut-être dire miraculeuse et surnaturelle. Il l'a appris. Parce qu'il y a bien des choses que nous apprenons, mais que nous ne croyons pas. Lui, il a cru aux deux nouvelles, que Jésus n'était pas loin, et en deuxième lieu, et certainement le plus important, c'est que Jésus avait tout pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la décision de faire cette route pour aller rejoindre Jésus. Il nous est dit qu'il alla vers lui, et au moment où il l'a rencontré, après probablement de Capernaum à Cana, il y a certainement quelques heures de marche, et quand il est arrivé auprès de Jésus, eh bien il l'a prié. Voilà, ça c'est encore l'autre étape. Qu'est-ce que veut dire prier ? C'est un mot que nous employons dans nos civilités. Je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir m'accorder. Je prie votre bienveillance de bien accorder ceci ou cela, de me donner ceci et cela. Donc ça, c'est un mot qui est passé dans le langage courant, surtout quand on a une demande à faire auprès d'une personne peut-être qui est élevée en capacité de répondre. Donc, il l'a prié de descendre. Et je crois que la troisième chose, c'est de pouvoir, en s'approchant de Jésus, avoir un libre accès auprès de lui pour le prier. Et ce n'était pas grand-chose ce qu'il lui demandait. Il lui a demandé de descendre. D'abord, est-ce que tu peux m'accompagner ? Parce que mon enfant est dans une grande détresse. Je suis moi-même en tant que père, dans un déchirement, et mon cœur est envahi d'angoisse et de détresse de perdre ce fils, de descendre et, bien sûr, de guérir son fils. Pour qu'il lui ait demandé de descendre, c'est une chose, qu'il lui ait demandé de guérir, c'est encore autre chose, parce que Jésus, s'il n'avait pas cru que Jésus avait une capacité qui était une capacité divine, à quoi ça servait ? Viens, tu verras mon fils, il est mourant, si tu peux faire quelque chose, c'est pas ça. Mais de le guérir résolument, de faire en sorte que cet enfant, eh bien, échappe à la mort, passe de cette condition de maladie à l'extrémité, à la santé, de recouvrer la santé. Parce qu'il était prêt de mourir, donc il y avait urgence. Et je souligne bien le mot urgence. Jésus va lui dire, mais il ne va pas lui dire seulement à lui, parce qu'il s'adresse avec une réponse plurielle. Il dira, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Vous avez remarqué avec moi, j'ai lu ce petit paragraphe précédent. Il nous est dit que lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car aussi ils étaient allés à la fête. Nous voyons que cette population de Galilée était certainement très impressionné par le miraculeux, je dirais même le spectaculaire, et ils avaient suivi Jésus, et ils avaient cru, les Galiléens avaient cru en Jésus parce qu'il faisait des choses extraordinaires. C'était en quelque sorte un Superman, si on peut dire. Comme aujourd'hui, eh bien, les gens qui font des choses extraordinaires, on est ébahis, on est extasiés, on se dit « mais ils ont quelque chose de plus ». Mais Jésus, c'est plus que plus. C'est beaucoup plus que cela. Et Jésus va leur reprocher. Il va leur dire, mais si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Il faut que vous voyez pour croire. Or, on sait très bien, on l'a vu dans la définition que nous avons placée devant nous tout à l'heure, et on le verra surtout dans cette réponse que Jésus dira à Marthe. Elle dira, mais si tu crois, tu verras la grâce, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras, et je le répète encore à dessein, c'est que trop souvent nous fonctionnons un peu comme les Galiléens, nous ne croyons que ce que nous voyons. Or, la foi, on l'a vu, c'est de croire sans voir. C'est de faire confiance et la démonstration des choses qu'on ne voit pas encore, qui vont se réaliser parce que nous croyons. Le déclencheur n'est pas la vue, n'est pas ce que je vois, le déclencheur c'est ce que je crois et de ce que j'ai entendu. Et ce que nous entendons ce soir, propice à nous donner la foi, c'est la parole que nous sommes en train de discuter, que nous sommes en train d'ouvrir et dont nous parlons. Alors Jésus, c'est une forme de reproche qu'il fait. Je ne dirais pas particulièrement pour ce père, mais pour tous ceux qui sont autour. Tous ces Galiléens qui, finalement, eh bien, sont en train de s'émoustiller, on pourrait peut-être dire le mot, avec eh bien, ce qui sort de l'ordinaire. Alors vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Cet homme, dans la détresse, ne perd pas de vue que ce qu'il a demandé à Jésus, il veut le voir s'accomplir. « Descends !» Et c'est la première demande qu'il a fait. « Descends avec moi et guéris mon fils. » Alors il lui rappelle. Et on sent toute l'urgence dans cette situation. Parce que d'une minute à l'autre, cet enfant peut passer de vie à trépas. Puisqu'il l'a... Le père l'a quitté dans une condition qui ne laisse présager pas de bonnes choses. On pourrait dire que le diagnostic vital de cet enfant, en parlant moderne, est engagé. Donc il ne sait pas s'il va revoir. Alors il presse le Seigneur. « Voilà, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Fais quelque chose, mais viens, accompagne-moi. » Et la réponse est une réponse extraordinaire, qui nous resitue véritablement dans la qualité spirituelle de la foi. C'est-à-dire de croire sans voir. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Qu'est-ce que va dire Jésus à cet homme? Il va falloir que cet homme ait beaucoup de foi. Parce que tout ce qu'il a demandé, il ne le verra pas. Tout ce qu'il a sollicité, Jésus ne va pas lui accorder. Mais il va lui accorder encore beaucoup plus grand que cela. Beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Une réponse céleste. Alors il va lui dire simplement, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Écoutez, quatre mots. Va, je ne descendrai pas avec toi. C'est inutile que je sois présent auprès de cet enfant pour prier pour lui imposer les mains ou faire autre chose. Mais tu vas, tu retournes chez toi. Alors ça semble quelque chose d'aberrant parce que je vous l'ai dit il y a un instant, Capernaum, Cana, il y a plusieurs heures de marche. Et cet homme vient d'arriver, il trouve Jésus. Il demande à Jésus de faire quelque chose et Jésus lui dit « Mais non, tu peux retourner maintenant. » C'est quand même assez décevant. Hein. C'est même déconcertant et là, on est totalement désorienté puisqu'il était venu pour poser cette question « Mais viens, viens avec moi, accompagne-moi. » Comme si la présence de Jésus était quelque chose qui pouvait le rassurer. Mais vous savez, c'est vrai d'autant plus pour nous aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas besoin de toucher ou de voir Jésus ou de sentir Jésus. Pour avoir la preuve qu'il est avec nous, le Seigneur est partout. Le Seigneur est là. Ce soir, le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur est présent. Là où il y a une détresse, là où il y a un besoin, là où il y a une aspiration, là où il y a une nécessité, c'est toujours une nécessité, de réponse, de salut, de pardon, de vérité, de justice, de guérison, de tout ce que, de libération, le Seigneur est là. Alors, dans cette réponse, qui semble, a priori, quelque part, comme quelque chose qui renvoie cet homme en disant, mais non, va. Mais la suite est quelque chose de formidable, parce que la foi de cet homme va reposer sur ces trois mots maintenant. Ton fils vit. En d'autres termes, ton fils est vivant. Tu ne le vois pas. Tu le sais parce que je te dis qu'il est vivant. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est de le croire. Maintenant, tu peux faire le chemin inverse. Tu peux retourner chez toi. Tu serres ces trois mots dans ton cœur. Et à chaque pas que tu vas faire, qui va te rapprocher de là où se trouve l'enfant, tu vas garder et tu vas te dire, eh bien, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Ce n'est pas de l'autosuggestion. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Ça aurait été un homme, ça n'avait pas de valeur. Mais parce que c'est Jésus. Va, ton fils vit. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'attitude de l'homme. Elle est belle. Elle se décline vraiment en peu de mots, mais elle nous fait la démonstration d'une foi ferme, d'une assurance, d'une certitude absolue des choses que cet homme espérait, une démonstration de celle qu'il ne voyait pas encore, mais qui était une réalité, parce que réellement son fils était vivant. il l'avait quitté, il était mourant. Maintenant, depuis que Jésus avait prononcé ces mots, il était vivant, il était guéri. Et écoutez, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Mes amis, la foi, c'est ça. Ce n'est pas des dévotions dans une église ou dans une cathédrale. Ce n'est pas, là, réciter un credo ou autre chose. La foi, c'est une attitude de cœur. C'est un positionnement dans lequel nous pouvons dire avec certitude, mais ce que Jésus dit dans sa parole, ce que je sais, ce que je lis maintenant dans l'évangile des promesses de Dieu, c'est la vérité. Dieu ne peut mentir. Dieu dit vrai. Dieu tient parole parce que Jésus est Dieu. Et il faut l'affirmer. Il faut le dire. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et de cela, il en est découlé qu'il a obéi. Parce qu'il a cru. Puisqu'il nous est simplement rappelé qu'il s'en est allé. Il est parti. Imaginez-vous quelques instants, quand cet homme a quitté Capernaum avec cette angoisse dans son cœur, en laissant avec un grand déchirement son enfant qu'il reverrait peut-être pas ou plus, et cette angoisse qui le portait néanmoins à aller vers Jésus pour lui faire la demande, « Mon enfant est mourant, mais viens, descends, et tu vas faire quelque chose, parce que je crois que tu es capable. » Mais néanmoins, il était mu par la foi et l'espérance. Mais il y avait quand même de l'angoisse et de la détresse dans son cœur. Et là, quand il est redescendu, quand Jésus lui a dit « Maintenant, tu peux y aller », il avait autre chose dans son cœur. Quelque chose qui le soutenait, quelque chose qui était plus fort, qui le tenait, qui le maintenait, qui le portait, qui le soulevait. Et qui faisait qu'il pouvait descendre, finalement, le chemin avec vélocité, avec peut-être même de l'allégresse et dans la joie, c'est parce qu'il y avait une parole qui était au fond de son cœur, parce que Jésus lui avait dit que son fils était vivant. Il courait vers l'exaucement. Il se précipitait vers la réponse. Eh bien, la foi, c'est ça. Et la foi, elle nous réjouit, elle ne nous accable pas. Elle ne nous met pas dans un état de détresse et de questionnement permanent. Elle ne nous plonge pas dans une affreuse et sinistre perplexité. La foi, elle nous porte et on sait. Malgré tout, il pourrait y avoir des orages, des tempêtes, des ouragans, toutes sortes de choses. On sait que c'est au fond de notre cœur. Le monde entier voudrait nous dissuader. Eh bien, on sait que c'est vrai. Est-ce que vous avez fait cette expérience? Et ça, c'est beau. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est certainement une des plus belles expériences qu'un homme puisse faire sur la terre. Parce que ça va le conduire plus loin, naturellement. Au salut, et puis... Mais là, c'est le déclencheur de toute une vie nouvelle. Parce qu'il sait à ce moment-là que Dieu est vivant. Que Jésus est ressuscité pour nous aujourd'hui. Et que si nous le prions, eh bien, il est capable de nous donner les réponses. Dans nos souffrances, dans nos maladies physiques, dans nos détresses, dans nos angoisses, dans nos dépressions, nos soucis et nos problèmes et nos tracas, peut-être économiques, familiaux ou autres, n'importe quoi. Nous pouvons tout lui apporter. Mais nous savons qu'il nous a entendus. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous avons la chose, nous dira Jean, dans une épître, que nous avons la chose que nous lui avons demandée. C'est ça, c'est merveilleux. C'est formidable. C'est communicateur de quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus. Alors, il a cru à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Et la démonstration. Imaginez-vous ce père qui se précipite, il n'a plus que trois mots dans son cœur, sur lesquels il peut se rattacher. C'est pas grand-chose, mais c'est tout. C'est toute son espérance. Alors, comme il descendait déjà, à ce moment-là, certains diront, une coïncidence, un hasard, c'est fortuit. Certainement pas. Ça, on met ça de côté parce que ça n'existe pas pour un croyant. Je dirais que c'est la grâce de Dieu. À ce moment-là, alors qu'il descendait vers sa maison pour rejoindre avec ce trésor dans son cœur, alors à ce moment-là, ses serviteurs sont venus à la rencontre. Ils savaient bien par où il était passé. Et ils se sont croisés à un moment donné, ils se sont rencontrés. Et ils lui apportèrent cette nouvelle. Ils ne nous avaient pas dit si elle était bonne ou mauvaise, mais elle était bonne. Ils se sont précipités vers leur maître et ils lui ont dit les trois mots. « Ton fils vit ». C'est formidable. Hein? Comme quoi, dans le ciel, il y a quand même des relations qui nous passent au-dessus de la tête. Même si on ne comprend pas comment ça se passe, et Dieu ne nous a jamais demandé de chercher à comprendre comment un miracle peut se produire, mais en tous les cas, il y a toujours une relation entre celui qui prie avec foi, le Dieu Tout-Puissant qui est capable de nous exaucer merveilleusement, et puis les circonstances et les situations qui se rejoignent, parce que Dieu est le maître du temps et des circonstances, et il met tout en œuvre pour que véritablement nous puissions recevoir avec nos mains ouvertes toute sa grâce et sa bénédiction, témoignage de son amour. Et c'est ce qui se passe. Ton enfant vit. Et s'il avait eu quelques doutes qui lui a traversé l'esprit, mais ce n'était pas le doute. Je crois que c'était la joie qui devait probablement l'animer à ce moment-là. Il nous est dit qu'il leur demanda à quelle heure s'était trouvé mieux l'enfant. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Donc, vous voyez que le voyage était quand même assez long. Parce que c'était hier à la 7e heure. Donc, il y a eu tout un temps, naturellement. La fièvre l'a quitté. Ça, c'était les témoins oculaires. D'une guérison à distance sur une parole de Jésus qui s'est opérée à la 7e heure, où là, l'enfant est sorti peut-être de sa léthargie, de son sommeil comatique ou comateux, et il a repris connaissance, et là, la vie est revenue. Et ça, les serviteurs l'avaient constaté. Et quand le père pose la question, mais à quel moment, à quelle heure? Mais ça s'est passé précisément à cette heure-là, et voilà comment les choses se sont déroulées. La fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Ça fait 3 fois que nous avons l'expression, hein, le chemin. « Ton fils vit, ton fils vit, ton fils vit ». Vous savez, je dis que ce petit texte est une perle parce qu'il nous montre comment les choses se déroulent par-delà ce que nous ne voyons pas, par-delà notre vie. Et nous avons dans le ciel un Dieu qui est rempli de miséricorde et de grâce, qui nous montre qu'il est tout puissant, qu'il a tout pouvoir sur le mal, sur la maladie, sur la mort et sur tout le reste, pour faire coïncider, si on veut parler, coïncider, coordonner, pour que véritablement le but soit atteint, un enfant qui était mourant, et maintenant, qui est vivant, tout simplement. Alors, il crut, lui et toute sa maison. Et j'aime bien cette expression parce que on pourrait dire, mais il a cru avant. Ben oui, il a cru avant. Il a cru dans une circonstance terrible, une circonstance épouvantable, un risque de mort qui planait sur sa maison. Il a cru que c'était possible. Il a cru qu'à Dieu, tout est possible. Il a cru que dans une démarche, dans une prière, mais pas n'importe laquelle, une prière de foi totale, eh bien le Seigneur, invisible, était capable de bouleverser le visible, de bouleverser les choses, finalement, eh bien dans lesquelles nous ne pouvons pas nous-mêmes pénétrer, puisque ça fait partie d'un monde dont nous n'avons pas accès. Mais Dieu est capable, lui, de faire ce que nous ne pouvons pas. Alors il a cru, lui et toute sa maison. Il a cru à la guérison, qu'il l'a certainement, si je comprends bien le texte, qu'il l'a certainement appris à croire que Jésus, non seulement était capable de guérir son enfant, mais était capable de guérir son âme, de le guérir de la perdition, de le guérir de la mort, mais de la mort réelle, pas de la mort physique, mais d'une autre mort. Il a cru, lui et toute sa maison. C'était un magnifique témoignage. Or, la foi est une démonstration des choses, de celles qu'on ne voit pas, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans l'Épître aux Romains, je reviens à Paul, au chapitre 8, verset 25, il est dit ceci. Et ça, c'est vraiment l'illustration de cet homme. Quand nous le voyons venir, recourir à Jésus, il dit, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est ce que cet homme a fait. Il espérait ce qu'il ne voyait pas encore. Eh bien, nous l'attendons avec persévérance. Et il a persévéré parce qu'il aurait pu dire, mais je suis venu, j'ai marché pendant des heures et des heures, je suis venu vers Jésus, je lui ai demandé de descendre, de guérir mon enfant, et il me renvoie en disant, va maintenant, ça y est, c'est bon, c'est terminé, on n'en parle plus. Il aurait pu dire, mais il s'est joué de moi, j'ai fait des efforts. Mais ce n'est pas à cause de ses efforts qu'il a été exaucé. C'est pas parce qu'il a marché des heures et des heures pour venir à Jésus, puis qu'il a marché des heures et des heures pour retourner. C'est pas nos efforts. C'est tout simplement notre confiance que nous mettons en Dieu. Je voudrais simplement terminer avec une petite histoire que je vous ai déjà racontée, mais je la raconte encore. Ce que c'est que la foi. Je crois qu'on a vraiment besoin de rentrer dans cette dimension les uns et les autres. On a fait des belles expériences dans notre vie, hein, au cours de notre vie. Des expériences qui ont été déterminantes pour nous amener à Jésus, à nous amener à la repentance, nous amener à la conversion, à une vie nouvelle. Mais on en fait tout le long de notre vie. Et il faut que nous en fassions encore. Parce que les besoins sont toujours les mêmes. Ils sont peut-être différents d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Enfin, peu importe. Ça, c'est pas grave. C'est pas important. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons besoin d'une saine ou d'une sainte réactivité devant nos problèmes. La maladie. Parfois, la séparation douloureuse. Quelle que soit la nature de ces séparations. Ce peut être la perte d'un emploi. Ce peut être des problèmes économiques, enfin, tout ce que l'on peut imaginer, auxquels nous pouvons être confrontés dans cette vie. Et je crois que nous avons besoin d'avoir et de dire, Seigneur, mais augmente ma foi, donne-moi d'être un homme de foi, une femme de foi, donne-moi de réagir positivement. Trop souvent, nous réagissons dans la crainte, dans la peur, en pensant qu'il y a derrière quelque chose, une condamnation, il y a ceci et cela, etc., etc. Non, j'ai dit tout à l'heure que la foi, c'est ce qui nous permet d'être agréable à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre une vie n'importe quoi et n'importe comment. Mais je veux dire que c'est ça. Et les grands hommes qui sont cités dans le livre des Hébreux, chapitre 11, ce qu'on appelle l'apologie des hommes de foi, je crois 38 fois, 36 ou 38 fois, il est parlé, il est dit, c'est par la foi, c'est dans la foi. Et ça revient continuellement dans un chapitre entier, cette petite phrase. Donc c'est la foi que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et confronté à nos difficultés, eh bien à ce moment-là, de pouvoir finalement lui faire confiance avec une bonne réaction de confiance. Moi, je ne peux rien, lui, il peut tout. Voilà. Le gros problème que nous avons en tant qu'hommes, c'est nos peurs. Nos peurs en raison de ce que nous voyons, en raison de ce que nous imaginons, en raison de ce que nous ressentons, des impressions qui sont les nôtres. C'est pour ça que je vous ai cité tout à l'heure ce passage, quand il est dit ceci, c'est Jésus qui dit « Croyez en Dieu, croyez en moi, et que votre cœur ne s'alarme point. » Ouais. Et quand nous avons une difficulté, quand nous butons contre un obstacle, une difficulté, la première souvent réaction, elle est naturelle, elle est humaine, c'est que nous avons peur. Et la peur neutralise notre foi. Elle anéantit. La peur, il faut bien que nous le disions, c'est le contraire de la foi. Puisque la foi crée la paix et la joie, la peur crée l'angoisse, et puis elle nous fait faire des bêtises, la peur. Alors écoutez, je vais vous raconter cette histoire. Dans les grandes mégapoles du monde entier, il y a des gratte-ciels. Je ne sais pas, à Saint-Nazaire, c'est pas très haut. Mais vous allez dans les grandes villes, vous allez à Dubaï par exemple, la plus grande tour du monde, elle fait 800 et quelques mètres, c'est presque l'Everest. Ah ça c'est de la mégalomanie, les gens s'imaginent, c'est Babel qui recommence, je suis sûr que Babel était quand même plus moins haute. Alors on va parler d'une tour, un gratte-ciel. Et vous savez que très souvent, les hommes d'affaires s'installent dans ces grandes tours, on peut les appeler tours infernales, comme on a vu malheureusement avec le Trade World Center. Et souvent, les hommes d'affaires installent des bureaux là, jusqu'au dernier étage. Alors, ils sont là, la vie est formidable, c'est assez extraordinaire. Et puis, dans cette entreprise, eh bien, on avait installé finalement là, jusqu'au sommet, dans un immeuble très 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 haut, des secrétaires qui travaillaient juste à la pique, de contrôler B vitrée. Et c'était le vide. Alors, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, je ne sais pas si vous êtes monté à la tour Montparnasse, parce que c'est une des plus hautes, ou alors, je ne sais pas, moi, à la Défense. Il m'est arrivé, il y a quelques années, d'aller à New York, avant qu'elles soient démolies, les tours du Trade World Center. Ça fait quand même un drôle d'effet, 107 étages. Et on était sur le site panoramique, complètement en haut. Ça fait un drôle d'effet. Parce que vous êtes là, vous voyez la ville en dessous, c'est assez étourdissant. Hein. On se demande comment ça tient debout, hein, parce que c'est que du verre. Enfin, c'est du béton, mais du verre hein, tout autour. Hein. Et quand on les a vus s'effondrer, là, en 2001, hein, quand on voyait les choses tomber comme ça, on se dit, c'est terrible, avec les pauvres gens qui étaient dedans. Hein. C'est affreux, c'est un cauchemar, c'est l'enfer. Hein. Alors, ça fait un drôle d'effet, quand même. Et ces secrétaires travaillaient juste à la pique. Et tous les matins, c'était la même situation. Elles étaient effrayées par l'impression de droit vertigineuse. Et toutes les employées se déplaçaient sans cesse, hein, ou déplaçaient leurs bureaux, leurs chaises, des côtés, sur l'intérieur. Tout le monde était massé au milieu. Personne ne voulait être sur le bord des vitres. Parce que c'était quelque chose de terrible. Hein. Remarquez, si vous voulez faire travailler les gens sur ce qu'elles font, ils ne regardent pas ailleurs, naturellement. Mais bon, c'était comme ça. Et personne ne voulait travailler contre le vitrage, parce que c'était impressionnant. Alors, l'employeur était passablement agacé, parce que bon, tout le travail était perturbé. Agacé de ne pas pouvoir faire travailler son personnel dans ses bureaux. Alors, il a eu cette idée. Écoutez bien, parce que ça va rejoindre un peu ce que nous disions il y a un instant. Il a eu cette idée pour rassurer et donner confiance à ses secrétaires de faire venir l'architecte, celui qui avait conçu, maître d'œuvre, architecte, tout ce que vous voudrez, donc le constructeur du building. Et il lui a expliqué, il lui a dit, mais écoutez, c'est vrai que, voilà, on est là, mais le travail ne va pas bien, parce que, en raison de ce qui se passe, de cette situation. Alors vous savez ce qu'il a fait, cet architecte ? Devant tout le monde, il a réuni tout le personnel dans une grande pièce, hein, c'était peut-être open space, vous savez, là maintenant tous les gens travaillent 30-40 ensemble là, dans un bureau, un seul bureau, hein, c'est très vaste. Alors il a pris tout le monde devant lui et il s'est livré à une démonstration audacieuse. Vous savez ce qu'il a fait ? Après avoir parlé, après avoir donné les caractéristiques techniques et tout ça, du vitrage, etc., etc., pour prouver que finalement il n'y avait aucun risque, hein, aucun danger de tomber dans le vide. Alors, il s'est mis à un moment donné complètement au bout de la pièce. Il s'était lancé à toute vitesse de toutes ses forces contre le vitrage. Et à un moment donné, on a entendu un boum. Il n'était pas passé à travers le vitrage. C'est le vitrage qui l'avait renvoyé en arrière. Pour faire la preuve que finalement, cette vitre, elle était incassable. On pouvait bien taper dedans, on pouvait bien s'élancer de toutes ses forces. Et il a recommencé à plusieurs reprises. Il a forcé, il a frappé aussi fort qu'il a pu, et la vitre n'a pas cédé. Ce qui montre bien, à l'évidence, que quand Dieu nous dit quelque chose, quand Dieu nous fait une promesse, quand il nous donne sa parole, et qu'il nous dit « vous pouvez vous appuyer sur Jésus », vous pouvez faire confiance à ce qu'il vous dit, quand il vous promet guérison, quand il vous promet le salut, quand il vous promet le pardon, quand il vous promet le Saint-Esprit, quand il vous promet tout ce dont nous avons besoin en tant qu'homme, eh bien je peux vous dire que vous pouvez vous appuyer, et ce n'est pas pour rien que dans la Bible, il nous est dit que Jésus est le rocher. Alors essayez de vous lancer contre un rocher, là, il y en a pas mal à Saint-Nazaire. Vous allez voir que ce n'est pas lui qui va se déplacer. Hein. Il ne va pas bouger. Eh bien c'est ça. Alors pourquoi ? Parce que cet homme avait une absolue confiance dans sa construction et dans le vitrage. La seule chose qui faisait la différence, c'est que la vitre était transparente. Et voilà. Quand je regarde et je m'aperçois que je suis à 110 étages, ça fait un drôle d'effet, hein ? Ça fait un drôle d'effet. Il y a une tour à Toronto, au Canada. C'est la tour qui se trouve au-dessus de la gare. Et quand on monte dedans, c'est une boule. Et vous marchez sur du verre. Ah, ça fait un drôle d'effet. Hein. Myriam n'a pas voulu me suivre. Et vous marchez, c'est très grand. Hein, c'est un espace qui est peut-être aussi grand que la pièce, mais c'est que du verre. Et vous voyez les trains, ils sont gros comme ça en dessous. Ça fait un drôle d'effet. Hein. Et au départ, vous hésitez. Hein, parce que vous dites... Moi, avec mes 60 et quelques kilos, je pense qu'il y en avait qui s'étaient passés, qui étaient plus gros que moi avant. Hein. Mais bon, c'est pour vous dire. Hein. Mais c'est toujours l'impression. Et c'est les impressions que nous laissent les choses. Alors, on fait confiance à Dieu ou on fait confiance à nos impressions ? On fait confiance à ce qu'on ne voit pas et que Dieu nous dit c'est vrai, ou on fait confiance à ce que nous voyons, et à ce moment-là, eh bien, on panique. Si je dis, eh bien voilà, si je me fie uniquement à ce que je ressens, on me dit que je suis perdu, que ma maladie va m'emporter. Il y a peut-être des vérités dans tout cela. Mais à ce moment-là, il y en a un qui me dit, mais moi je suis capable de faire autrement que les hommes. Si j'ai reçu une promesse, ce n'est pas de l'autosuggestion, ce n'est pas la méthode Coué, mais une conviction, une certitude, alors à ce moment-là, qui je vais croire? C'est comme la vitre. Alors, toutes les secrétaires se sont mis, elles ont eu la démonstration que c'était solide, et elles pouvaient travailler en toute tranquillité. Elles avaient, après cet exercice, tout le monde a retrouvé confiance et a repris sa place. Et je crois que c'est ça ce que nous avons besoin. La parole de Dieu est vérité. Elle n'est pas mensonge. La parole de Dieu, elle n'est pas ténèbre. Elle ne nous fait pas errer dans toutes sortes de suppositions, de toutes sortes de choses qui nous effraient. La parole de Dieu, elle nous éclaire. Elle est lumière. La parole de Dieu, elle est salut. Elle n'est pas perdition. Pour cet homme, la parole que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit », c'était la réalité, déjà au moment où il lui a prononcé, mais le Père n'était pas là pour le voir, il l'a vu que le lendemain. Et c'est ça, tout ce que nous demandons en priant, tout ce que vous demanderez, nous dit Jésus, Marc, je le répète, chapitre 11, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est ça ce que nous avons besoin, chassons la peur de notre cœur, les impressions, les suggestions, et puis tout ce que les autres viennent nous raconter. Quelquefois, il nous rassure. J'ai été malade et on est venu me dire, oh, tu sais, j'en ai connu qui sont morts. Bon, je peux vous dire que ça vous met le... C'est bien, ça vous donne le moral. Hein. Ben oui, mais c'est ça. Alors que Jésus dit, ton fils vit. C'est ça la grande différence. S'appuyer de toutes nos forces. Comme cet homme s'est élancé contre la vitre et c'est lui qui a été repoussé à l'intérieur. Parce que la vitre, elle tenait bon. C'est des choses qui sont difficiles. C'est une prouesse technologique. Mais Dieu est capable de prouesses beaucoup plus grandes que les prouesses technologiques humaines. Ça, c'est clair. S'appuyer de toutes ses forces, de toute sa foi sur les promesses de Dieu. Cet homme a pu embrasser, serrer son enfant qu'il avait quitté alors qu'il était mourant. Et là, il était bien vivant, il pouvait l'embrasser. Tout simplement parce qu'il a cru à la promesse que Jésus lui avait dit. Ton fils vit. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, et on va lui demander, comme les disciples un jour sont venus, parce que ça c'était aussi des beaux textes merveilleux, quand il est dit ceci, Seigneur, augmente-nous la foi, et ne laisse pas la peur, ne laisse pas ces choses nous détruire, les craintes qui nous envahissent. Seigneur, augmente notre foi. Donne-moi la foi, comme ce Père. Et là, nous allons voir que le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, eh bien, puisqu'on ne les voit pas, eh bien, le Seigneur les voit. Et si nous y croyons de tout notre cœur, il va les réaliser pour que nous les voyons. Que Dieu nous bénisse. Chacun d'entre nous, peut-être avec notre problème ce soir, on va demander à Dieu sa grâce.